Pour mon introduction, je vais vous parler de la liberté humaine à la lumière du mystère du Christ. La pensée chrétienne au sujet de la liberté a pour critère de vérité la personne et la vie de Jésus, l'homme libre et libérateur par excellence, étant le Fils de Dieu en personne. En effet, comme par exemple le pape François vient de le rappeler dans un document concernant les facultés de théologie, la vérité n'est pas une idée abstraite, mais c'est Jésus, le Verbe de Dieu. Il cite le Concile Vatican II. Dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Avant d'énoncer donc la question qui va nous retenir, et pour pouvoir le faire, il faut préciser comment la liberté de l'être humain peut être pensée à la lumière du Christ, vrai homme, et pleinement un avec Dieu, en étant sa parole et son fils. Le fils, c'est-à-dire, dans la Bible, celui qui n'est pas esclave, celui qui jouit de la pleine liberté. Certes, me direz-vous, la liberté se rapporte à la personne, et en ce sens, il n'y a qu'une liberté du Christ, puisqu'il n'y a qu'une personne en lui, la liberté du Verbe Fils de Dieu. Mais sa volonté humaine est libre de la liberté même du Fils, et à ce titre, on peut estimer qu'il y a bien une liberté humaine de Jésus. En outre, la plénitude de son humanité implique que le Christ ait comme nous été inséré, d'une façon qui reste à préciser, dans l'enchaînement des causes et des effets naturels, selon les lois de la nature. Toutefois, le fait qu'il soit pleinement Fils de Dieu exclut qu'il ait été soumis au déterminisme causal. En effet, cela aurait impliqué que sa vie, ses actions, ses paroles aient été le pur produit des états antérieurs de l'univers, ce qui aurait exclu que son être de Fils de Dieu puisse influer directement sur les dites actions et paroles. Du point de vue théologique, nous nous trouvons donc devant au moins un cas où un être humain est soustrait à l'éventuel déterminisme naturel. Or, cet être humain, le Christ, est, du point de vue théologique, source et modèle de notre liberté. Et puisque notre liberté est le fruit d'une libération par le Christ qui nous conforme à lui et nous fait entrer dans sa relation filiale à Dieu, nous sommes, nous aussi, du point de vue théologique, soustraits au déterminisme naturel dans la mesure où nous sommes conformés au Christ et donc animés par son esprit. Il y a donc une raison impérieuse, fondamentalement christologique, de penser l'être humain comme susceptible de ne pas être dominé de façon déterministe par un enchaînement implacable de causes et d'effets créés. Cela constitue l'argument fondamental pour rejeter le déterminisme naturel du point de vue théologique. D'un autre côté, le fait qu'en Jésus, l'humanité et le Fils de Dieu soient parfaitement unis invite à penser au moins une liberté humaine, la sienne, comme parfaitement guidée par la liberté du Fils de Dieu, voire déterminée par elle. Pourquoi ? Je ne peux pas démontrer cela, mais parce que le Christ doit être considéré comme impeccable, non seulement de fait, sans péché, mais de droit. Si on peut concéder que s'il l'avait voulu, il aurait pu pécher, on doit exclure qu'il aurait pu le vouloir. Mais comment penser qu'un être humain puisse être par principe impeccable et pourtant parfaitement libre ? Sinon, en admettant que, dans sa forme la plus accomplie, la liberté humaine est dépourvue de possibilités alternatives en ce qui concerne l'union à Dieu. Si la liberté impliquait par nature la possibilité de se détourner du bien ou de Dieu, alors, comme Augustin ou Anselme l'ont écrit, Dieu ne serait pas libre. Or, du point de vue théologique, Dieu, qui est amour éternel, est liberté infinie. Le Christ, comme je l'ai rappelé, n'a jamais eu la possibilité de se détourner de Dieu, tout en étant l'homme libre au sens plénier et originaire du terme. Cela implique que tout être humain libéré par le Christ et conformé à lui tend, à la mesure de cette conformation, à perdre le pouvoir des opposés en ce qui concerne l'adhésion à Dieu. D'ailleurs, l'enseignement commun au sujet de la vie éternelle est que dans la vision de Dieu, les bienheureux ont perdu la capacité de se détourner volontairement de Dieu. Il apparaît donc de cet autre point de vue que le libertarianisme impliqué par la référence christologique n'est pas nécessairement un libertarianisme des possibilités alternatives. On pourrait même dire qu'il existe une forme de compatibilisme chrétien, selon lequel les actes libres du Christ et de ceux parmi les êtres humains dont la volonté est pleinement unie à la sienne, autant qu'il est possible dans cette vie, sont causés par Dieu de façon infaillible. Et jusqu'à quel point peut-on dire qu'ils sont déterminés ou co-déterminés par Dieu ? La question reste ouverte pour le moment. Quoi qu'il en soit, cette réflexion initiale nous met sur la voie d'une conception de la liberté qui échappe autant que possible à l'alternative entre ces deux positions. D'un côté, un déterminisme naturel intégral, comme je l'ai dit en commençant, mais aussi un libertarianisme selon lequel un acte humain ne serait libre que si son auteur a la possibilité d'agir autrement. En même temps, affirmer, comme je l'ai fait, que la liberté humaine trouve son plein accomplissement dans une conformité définitive donnée par grâce à la volonté de Dieu, cela n'implique-t-il pas qu'une telle dépendance à l'égard de la grâce soit une détermination par elle ? Et si tel est le cas, le déterminisme de la nature n'est-il pas évité au prix d'un déterminisme dont la source serait l'action de Dieu appliquée au libre arbitre ? Le chemin qui s'ouvre ainsi à nous est celui d'une approche théologique de la liberté en tant qu'elle est menacée par deux sortes de déterminisme. Non seulement le déterminisme naturel, mais le déterminisme théologique, selon lequel Dieu déterminerait, au moins dans certains cas, le libre arbitre. Compte tenu de l'ampleur océanique du sujet, mon ambition se limitera à mettre en évidence, en ce qui concerne les rapports entre la liberté et les déterminismes théologiques et naturels, la pertinence d'une troisième voie entre deux positions extrêmes. La première de ces positions extrêmes est le déterminisme intégral, selon lequel Dieu ou la causalité naturelle détermine le cours du monde en sa totalité. L'autre position extrême est la forme de libertarianisme qui exclut qu'un acte libre soit causé par Dieu ou par des événements antérieurs. Le présupposé de cette dernière position est que les causalités théologiques ou naturelles sont nécessairement déterminantes. Dans un premier temps, je vais donc montrer qu'il est possible de concevoir les rapports entre Dieu et les créatures de telle façon que les actes libres bons, conformes à la volonté de Dieu, sont causés par Dieu sans être déterminés par lui. Pour plus de concision, je laisse de côté le cas des actes mauvais. J'examinerai ensuite si cette distinction entre déterminisme et causalité peut être transposée sur le terrain philosophique des rapports entre l'acte libre et les événements antérieurs du monde, et avec quel profit. En conclusion, je montrerai comment on peut chercher, sinon à concevoir, au moins à appréhender le mystérieux rapport entre l'action de Dieu, la liberté humaine et les processus naturels, en particulier neurologiques. Les neurosciences ne seront donc présentes au début que implicitement, en tant qu'elles peuvent être un facteur de déterminisme. Donc première partie, la liberté libérée entre déterminisme et libertarianisme théologique. Le déterminisme théologique peut être défini comme la conception selon laquelle la volonté de Dieu fixe de toute éternité les événements du monde, y compris les actions du libre arbitre. Cette conception est étroitement corrélée à une représentation de la toute-puissance de Dieu et de son éternité, remontant au plus tard à saint Augustin. Dans un acte de connaissance sans succession, Dieu est censé causer et connaître l'existence de la totalité des créatures et de leur histoire. Fortement influencée par la pensée grecque, cette théorie métaphysique est présente chez l'immense majorité des théologiens catholiques et protestants jusqu'au XXe siècle. Comme nous allons le voir, on peut discuter, selon les auteurs, du caractère déterministe de leur conception de la causalité divine. Mais, en comparaison de nouvelles approches proposées dans la seconde moitié du XXe siècle, je pense que toutes les précédentes peuvent être qualifiées de déterministes. Parlons tout d'abord du déterminisme théologique. La question des rapports entre liberté humaine et action de Dieu par sa grâce fut la plus débattue de toute l'histoire de l'Occident chrétien. En réaction au moine Pélage, pour qui l'homme n'est libre que s'il agit sans avoir besoin d'une aide extérieure, l'arbitre, dit-il, n'est pas libre si l'aide de Dieu lui est nécessaire. Et donc Pélage, pour qui l'homme se trouve capable par nature d'orienter sa volonté selon Dieu, en réaction à Pélage, Augustin fut le grand défenseur de la nécessité absolue de la grâce pour le bon exercice du libre arbitre. Ce que sa conception, celle d'Augustin, comporte de problématique, c'est l'idée absente de la théologie orientale, heureusement pour elle, selon laquelle les actions humaines relèvent d'une prédestination non seulement infaillible, mais sélective, et très sélective. Nul n'appartient à l'infime minorité des prédestinés au salut sans que Dieu l'ait infailliblement décidé avant même l'exercice du libre arbitre humain. Augustin affirme bien l'existence d'un libre arbitre et s'efforce de penser la prédestination de Dieu comme non nécessitante. Cela fait dire d'ailleurs à certains qu'il n'était pas vraiment déterministe. Mais la question est très débattue. En tout cas, Luther et Calvin, qui reprirent cette position prédestinationniste d'Augustin en la durcissant, allèrent jusqu'à nier le rôle du libre arbitre dans la relation à Dieu. Thomas d'Aquin, quelques siècles auparavant, le théologien dont l'influence fut la plus considérable du côté catholique, peut sembler ne pas avoir été déterministe, dans la mesure où il concevait l'action causale de Dieu comme non nécessitante. Mais il est resté trop étroitement dépendant de l'autorité d'Augustin concernant la prédestination, affirmant comme lui que celle-ci était absolument infaillible. C'est la raison pour laquelle il y a de bonnes raisons de penser, comme le font un certain nombre de théologiens, que sa position reste déterministe. C'est au XVIe siècle que la conception augustino-thomiste a connu sa première crise, lorsque s'y sont attaqués Molina et d'autres jésuites, tout en continuant d'ailleurs de se réclamer de l'autorité d'Augustin et de Thomas. Molina était en effet horrifié par les conséquences en ce qui concerne la bonté de Dieu et le libre arbitre du prédestinationnisme augustinien qu'il rencontrait non seulement chez Luther et Calvin, condamnés par le Concile de Trente récent, mais chez des dominicains comme Bagnès. L'idée que le salut ou la perdition de l'être humain soit décidé éternellement par Dieu, antérieurement à la prévision de l'exercice du libre arbitre, lui était intolérable. Non seulement parce qu'elle contredisait la miséricorde de Dieu, mais parce qu'elle mettait en cause la liberté humaine, à laquelle les jésuites, en raison de leur vocation missionnaire et pastorale, accordaient une grande importance. L'innovation moliniste, donc celle de Molina, consista à considérer que lorsque la grâce de Dieu est donnée à l'être humain et s'avère efficace, parce que celui-ci, de fait, y consent librement, c'est ce consentement de l'homme qui a rendu la grâce efficace. Cela permet de rendre compte de la liberté et de la responsabilité de l'être humain sous l'action de la grâce. Quelle que soit la grâce reçue, l'être humain a la liberté de la refuser, comme l'avait dit le Concile de Trente. Pour les dominicains de l'époque, en revanche, si la grâce est efficace, l'être humain n'a pas vraiment la liberté de la refuser. C'est tout au moins ce que pensent les jésuites de la position de leurs adversaires. Mais une des difficultés inhérentes à la position moliniste est que, si elle se réduisait à cette conception des rapports entre grâce et libre arbitre, elle tomberait dans le pélagianisme, l'erreur de Pélage. En effet, la grâce est censée, pour Molina, n'avoir aucune action causale directe sur le libre arbitre. Elle est simplement une aide à son exercice. Il semble donc que ce soit l'être humain qui décide de son salut en acceptant une grâce qu'il peut toujours refuser. C'est pourquoi, si Molina s'en était tenu à cette conception, il lui aurait été impossible de penser la prédestination comme il fallait la penser à l'époque, c'est-à-dire comme le décret infaillible par lequel Dieu sauve qui il veut. Selon les idées de l'époque, cette conséquence l'aurait rendu pélagien, ce dont ne manquaient pas d'ailleurs de l'accuser les dominicains. C'est pour éviter cette conséquence qu'il a élaboré la thèse selon laquelle Dieu peut connaître de toute éternité les actes que chaque être humain possible effectuerait certainement dans telle circonstance particulière, au nombre desquels il faut compter les grâces qui lui seraient données. Autrement dit, Dieu, selon Molina, sait d'une manière infaillible ce que Pierre ferait s'il était placé dans telle condition ou tel monde possible, avec telle grâce donnée. Et ce qu'il connaît infailliblement pour Pierre, il le connaît pour tous les êtres humains réels ou possibles. De ce point de vue, la raison ultime pour laquelle Pierre est sauvé n'est donc pas le fait qu'il a accepté la grâce que Dieu lui a donnée pour cela, mais que parmi tous les mondes possibles, Dieu a créé celui dont, dans sa science parfaite, il savait infailliblement qu'il contenait le consentement libre de Pierre. Comment cela est-il possible? La réponse de Molina est, je le cite, que Dieu voit dans sa propre essence, grâce à son inscrutable et très profonde compréhension de chaque libre arbitre, ce que chacun ferait de par sa liberté innée s'il était placé dans tel ou tel ordre de choses, ou même dans une infinité d'ordres de choses, alors même qu'il pourrait, s'il le voulait, faire réellement l'opposé. La question de savoir si une telle science de Dieu, appelée science moyenne pour une raison que je vous épargne, est tout simplement possible et très débattue, tout comme de celle de savoir si elle est compatible avec la liberté de l'être humain. Je passe sur les raisons qui me font écarter cette conception comme sinon fausse, au moins très peu convaincante, et je dirais que la sophistication des réponses des molinistes à l'objection selon laquelle cette science serait déterminante ou impossible, et pour moi, les rend pour moi assez suspectes. Je pense qu'en théologie, on ne peut pas s'accommoder de thèses qui supposent des défenses hyper sophistiquées. Il y a quelque chose de problématique. Deuxièmement, le rejet. Oui, alors ce que je voulais ajouter, c'est que je considère, ça peut être débattu, que la thèse moliniste, quoi qu'elle en dise, reste déterministe, au sens où, ultimement, c'est Dieu qui décide du cours entier du monde. En choisissant parmi tous les mondes possibles celui dont il a décrit la possibilité, et en décidant que dans ce monde possible, il donnerait telle grâce dont il sait qu'infailliblement qu'elles vont être efficaces par l'acceptation du libre-arbitre. J'ai trouvé sous la plume de James Anderson le même avis. Deuxièmement, donc, le rejet contemporain du déterminisme théologique, donc toutes tendances confondues, celles que j'ai évoquées. En fait, le déterminisme théologique a été rejeté de la manière la plus décisive et massive après Auschwitz, comme on dit parfois. Et comme l'a fait remarquer le grand théologien allemand Thomas Proper, dont vous avez la référence dans la bibliographie, le point commun à toutes les approches évoquées précédemment est ce qu'il a appelé l'axiomatique de l'infaillibilité, selon laquelle la providence par laquelle Dieu gouverne le cours du monde est infaillible, et en particulier la prédestination, cette composante de la providence par laquelle il agit sur le libre arbitre de l'homme, est absolument infaillible. Les deux principales objections à cette conception sont celles que les molinistes avaient déjà soulevées à l'encontre de la conception thomiste, sans toutefois oser remettre en cause l'axiome de l'infaillibilité de la prédestination. Voici l'objection principale. Si Dieu détermine infailliblement le cours entier de l'histoire, il est responsable du mal qui l'atteint, et en particulier d'Auschwitz, et de la damnation de ceux qu'il n'aurait pas prédestinés. En outre, deuxième objection, l'être humain ne jouit pas d'un vrai pouvoir d'autodétermination, et sa liberté ne serait qu'une apparence. C'est pourquoi Thomas Proper et d'autres ont plaidé pour un molinisme sans science moyenne, cette science par laquelle Dieu pourrait prédire infailliblement les actions de l'homme. Selon Proper, l'être humain s'autodétermine par rapport à la grâce sans que Dieu puisse aucunement prévoir sa réponse. L'amour et la liberté de Dieu se manifestent et s'exercent en ce que Dieu, dit Proper, se détermine à se laisser déterminer par la réponse de l'homme. Pour Proper et ses disciples, la pensée de la liberté, comprise au sens moderne d'autodétermination originaire, s'impose aujourd'hui comme la forme de pensée à mettre en œuvre dans l'approche théologique des relations entre Dieu et l'homme. Ils rejoignent en cela, mais je ne peux pas le développer, certaines positions relevant de ce qu'on appelle la free will defense, donc la défense de la, la bonté de Dieu versus le mal par l'argument de la liberté, et l'open theism, donc le théisme ouvert selon lequel Dieu ne connaît pas le cours futur de l'histoire, celui-ci étant ouvert. Un des risques inhérents à ce type d'approche, et en particulier celle de Proper, est celui de tomber involontairement dans une forme de néo-pélagianisme. Même si dans de récentes publications dont vous avez les références, j'ai pu argumenter en faveur de la thèse de l'open theism, donc l'avenir ouvert, j'ai eu l'occasion de critiquer l'approche de Proper, notamment parce qu'elle est incompatible avec, à mon avis, la déclaration conjointe sur la justification signée par les catholiques et toutes les grandes confessions protestantes historiques, selon laquelle l'acte libre de foi a sa source en Dieu, donc est causé par Dieu. Alors, peut-on tracer une troisième voie ? Est-il possible de proposer une troisième voie selon laquelle l'acte libre vertueux, ou bon, de l'être humain, sans être aucunement déterminé par Dieu, même pas à la façon moliniste, n'en serait pas moins causé par lui. C'est ce qu'ont fait avant Proper certains théologiens du XXe siècle. Donc ils l'ont fait pour ne pas être pélagiens, entre guillemets, et parce qu'ils étaient conscients, pour des raisons théologiques et spirituelles, que les actes bons de l'homme ne peuvent pas être revendiqués par lui comme étant leur propre création. Ils sont donnés par Dieu. Donc c'est ce qu'ont fait un certain nombre de théologiens, dont je vous épargne les noms, donc trouver une troisième voie, pour sortir de l'impasse créée par le débat entre molinistes et dominicains, qui a été brièvement ravivé au début du XXe siècle. La conviction fondamentale de ces théologiens, que je partage, est que, en fait, jésuites et dominicains, à l'époque, s'étaient fourvoyés en ne prenant pas suffisamment en compte la transcendance infinie de Dieu par rapport à l'être humain, et en concevant, malgré eux, les rapports entre liberté humaine et action de Dieu de façon concurrentielle. En réalité, selon ces théologiens, il faut concevoir l'acte libre de l'être humain, vertueux, l'acte libre vertueux, comme étant tout entier de l'être humain et tout entier de Dieu. Ça pose la question de savoir si le fait qu'un acte libre soit à la fois causé par l'être humain et par Dieu n'implique pas qu'il est déterminé par Dieu. La causation de l'acte libre par Dieu n'est-elle pas déterminante ? Tout dépend en fait de la façon dont on conçoit la relation causale. En s'inspirant de Thomas d'Aquin, à la lumière de l'interprétation lumineuse qu'en a donnée Sertillange, dont vous avez les références, on peut proposer ceci. La causation par Dieu d'un être ou d'un événement, que celui-ci soit déterminé ou non, est sa relation de dépendance ontologique à l'égard de Dieu. Relation de dépendance ontologique. L'étape suivante consiste à remarquer que la relation présuppose l'existence des termes qu'elle relie. Ainsi, la relation d'un acte libre à Dieu présuppose l'existence de cet acte libre en tant que libre. Il s'ensuit que cette relation de dépendance ne peut pas déterminer l'acte libre, n'étant ni chronologiquement antérieure à lui, ni ontologiquement antérieure à lui. Une relation est seconde par rapport au terme qu'elle relie. Alors on pourrait dire que lui, Dieu, est antérieur à l'acte. Mais s'il est antérieur à l'acte, il n'en est pas une condition logiquement suffisante, car Dieu pourrait très bien exister sans cet acte. Si on admet avec Matthew Grant, dont vous avez les références, qu'un facteur déterminant doit être à la fois logiquement suffisant et antérieur à ce qu'il détermine, chronologiquement ou ontologiquement, il s'ensuit que ni Dieu ni la relation de dépendance de l'acte libre à son égard ne détermine cet acte. Bon, c'est un petit peu condensé, j'en conviens. Au moins intuitivement, vous pouvez saisir que si l'exposition complète de cette analyse nous entraînerait trop loin, nous pouvons retenir qu'il est possible de concevoir une relation de dépendance causale entre l'acte libre de l'homme et Dieu qui ne soit pas une relation de détermination. Avec Kevin Timp, le dernier auteur sur ma bibliographie, il est possible d'affiner l'appréhension, plutôt que la compréhension, de la relation causale entre l'acte libre et Dieu. Le caractère non déterministe de cette relation implique, selon l'hypothèse ici défendue, que l'agent en est la responsabilité ultime, et en ce sens, en est le contrôle. Donc l'agent humain. Tim propose avec finesse de considérer que le contrôle de l'homme ne porte pas sur le consentement à la grâce, ce serait pélagien, mais sur l'absence de résistance à celle-ci, la passivité de la volonté à son égard. À propos de l'acte libre particulier qu'est l'acte de foi donnant accès à la justification, Timp écrit « Les agents ont un contrôle de leur salut, non en le causant, mais en vertu d'une omission qu'ils contrôlent indirectement. » L'omission de résister à la grâce. Donc leur choix, leur alternative, c'est entre résister à la grâce ou omettre d'y résister. Dans la mesure où cesser de vouloir résister à un bien ne revient pas à vouloir ce bien, il n'est pas pélagien, poursuit-il, de dire que les individus peuvent, par un acte de la volonté, devenir passifs envers la grâce donnée par Dieu. Une fois qu'ils sont passifs, la grâce cause leur entrée dans la foi salvifique. Je pense que la même analyse, Timp ne le fait pas, hein, s'applique aux actes libres de la personne, non pas simplement dans l'accès à la justification, au salut, hein, mais de la personne désormais animée par la foi. Ces actes libres peuvent être pensés comme causalement dépendants de Dieu, sans qu'on comprenne comment Dieu s'y prend, bien sûr, hein, ce serait complètement ridicule. Hein. Mais la personne qui les accomplit dans cette dépendance causale en est responsable. En effet, elle a toujours le choix de la refuser ou de s'abstenir de la refuser. Si elle s'en abstient, son acte libre est tout entier le sien, tout en étant tout entier de Dieu. Le contrôle que nous avons ne porte donc pas sur l'alternative entre refuser la grâce ou y consentir, c'était l'alternative des débats entre jésuites et dominicains, mais entre la refuser, cette grâce, ou ne pas s'y opposer. Le consentement lui-même est une autodétermination dont nous n'avons un contrôle qu'indirect, en cessant de nous opposer à ce qu'il nous souhaite donner. Et cette autodétermination est effectuée conjointement et en totalité par nous et par Dieu, à l'initiative et dans la dépendance ontologique à l'égard de celui-ci. Deuxièmement, déterminisme naturel ou causalité événementielle, entre dualisme et matérialisme. Il peut sembler à première vue que ces considérations théologiques n'aient qu'un rapport purement formel avec les réflexions sur le rapport entre liberté humaine et déterminisme naturel. Il s'agit de chaque fois de compatibilité entre liberté et déterminisme. Les sources de ce déterminisme, quant à elles, diffèrent autant qu'il est possible, Dieu ou la nature. Cependant, nous avons de profondes raisons théologiques de penser ce qui les relie. Considérons pour commencer que l'anthropologie chrétienne implique de refuser aussi bien le monisme matérialiste que le dualisme de l'âme et du corps, selon lequel âme et corps seraient deux substances. Je ne peux pas développer ici ce point. Le refus du monisme matérialiste implique de penser la relation entre liberté et causalité naturelle de telle façon que la liberté ne soit pas réduite à une caractéristique d'un être purement matériel, au comportement déterminé par les lois de la matière. Mais le refus du dualisme des substances implique de ne pas introduire une dualité excessive entre l'agent libre et sa composante matérielle, pour le dire vite. En outre, comme nous l'avons vu, l'anthropologie chrétienne reconnaît dans la liberté humaine le fruit d'une libération donnée par la grâce de Dieu, et donc la possibilité d'une action de cette grâce en l'être humain. C'est pourquoi il faut tenir ensemble, contre le dualisme, l'insertion de l'être humain dans la succession des causes et des effets naturels, et contre le matérialisme, la possibilité pour lui d'agir librement sous l'action de la grâce. Cela suppose de prendre en compte à nouveau la différence entre détermination et causalité. Cette fois-ci, non pas en ce qui concerne l'action de Dieu dans l'être humain, mais l'influence qu'ont sur l'être humain les causes naturelles. Pour les compatibilistes et beaucoup de libertariens, la plupart sans doute, la causalité naturelle est nécessairement déterministe. Pourtant, il est tout à fait possible et même justifié de désolidariser causalité et déterminisme. Et pour le penser cela, je vais m'appuyer sur le philosophe allemand Gerd Keil, qui est celui qui m'a le plus éclairé dans mes réflexions sur ces sujets. Je passe rapidement sur la dénonciation qui est très intéressante de quatre mythes concernant le libertarianisme, mythes qui sont entretenus de manière involontaire, selon lui, par beaucoup de neuroscientifiques et quelques philosophes. Le premier d'entre eux est le mythe selon lequel le libertarianisme impliquerait nécessairement que la liberté soit non conditionnée. Ça va, c'est assez grossier comme mythe. Le second mythe est celui selon lequel le libertarianisme supposerait le dualisme de l'esprit et du corps. Donc, avec Kyle, on peut défendre que, et on peut être libertarien sans être dualiste des substances. Le troisième mythe est celui du moteur immobile, selon lequel les agents libres auraient le pouvoir en quelque sorte de faire des miracles, soit en changeant les lois de la nature, soit en agissant comme des moteurs premiers qui lancent de nouvelles chaînes causales. Il ne dit pas que c'est faux, mais il dit qu'on n'est pas obligé de penser cela pour être libertarien. Le dernier mythe est celui de la lacune. C'est pour que les décisions vraiment libres soient possibles, il devrait, selon ceux qui pensent cela, y avoir des lacunes de détermination dans les processus cérébraux. Or, cela suppose, si vous voulez, que le déterminisme soit généralement vrai et localement faux. Mais, objecte Kyle, à mon avis, à bon droit, dans un monde non déterministe, aucun état de l'univers n'est déterminé. L'indéterminisme n'y est donc pas local, mais général. Ça ne veut pas dire qu'il est soumis au chaos. Il ne comporte aucune régularité, bien au contraire. Mais les lois de la nature, selon la conception défendue par Kyle, que je ne peux pas développer ici, décrivent simplement des restrictions qui ferment certaines possibilités, mais en laissent d'autres ouvertes. Selon le libertarien qu'il est, ces restrictions sont trop faibles pour exclure toutes les possibilités alternatives. Le cours du monde n'est pas déterminé ad unum. Troisièmement, la causalité comme relation contrefactuelle singulière. Ça, c'est le cœur de la pensée de Kyle qui m'intéresse ici. Relation contrefactuelle singulière, c'est ça qu'il s'agit de comprendre. Donc, les mythes indiqués étant contestés, se pose la question de la conception de la causalité. Avec Kyle, j'écarte les conceptions dualistes en raison de la grande difficulté, voire de l'impossibilité de les concilier avec les neurosciences, mais aussi pour la raison théologique que j'ai déjà indiquée. J'écarte aussi, parce qu'elle soustrait l'agent à l'enchaînement des causes événementielles, la fameuse causalité de l'agent, donc selon laquelle l'action libre n'est pas causée par des événements antérieurs, mais par l'agent lui-même, conçu comme pouvant lancer des chaînes causales, commencer des chaînes causales. Et j'écarte aussi la causalité par liberté telle que la conçoit Kant. Comme le dit Kyle, je cite, « Commencer une action n'est pas, d'après tout ce que nous savons, lancer une chaîne causale. Les chaînes causales ne commencent et ne finissent jamais, mais elles passent à travers nous de façon non déterministe. » Là est la précision importante. Selon la théorie de l'action, poursuit Kyle, chaque fois que nous faisons quelque chose, des événements mentaux intérieurs causent des mouvements corporels. Ou des événements aussi non mentaux d'ailleurs. Mais cela n'exclut pas que ce soit nous qui accomplissions les mouvements corporels et qui aurions pu aussi les omettre, d'après la conception libertarienne qu'il défend. Effectuer ou accomplir une action est en effet autre chose que la causer. Fin de citation. Vous voyez que ceux qui connaissent ces débats savent qu'il ne reste donc comme possibilité que la causalité dite événementielle, dont le défenseur le plus connu est Robert Kane, mais Kyle estime que Kane n'a pas poussé suffisamment, de manière suffisamment approfondie, l'élaboration de la théorie causale. C'est pourquoi Kyle s'y emploie en s'inspirant, pour ceux qui connaissent éventuellement, de David Lewis. Et il reprend à David Lewis, tout en le contestant à bien des égards, la théorie contrefactuel de la causalité. Donc là, vous avez une citation sous les yeux qui vous indique qu'il entend par théorie contrefactuelle de la causalité. Un jugement causal, nous pouvons lire ensemble, de la forme, l'événement A a causé l'événement B, peut être analysé par le conditionnel contrefactuel. Si A n'était pas survenu, et si tout ce qui a effectivement eu lieu jusqu'à la survenue de A avait été identique, donc c'est la clause ceteris paribus, B ne serait pas survenu. Vous voyez, ça porte sur des événements, pas sur des types d'événements, mais sur des événements singuliers. Ce conditionnel exprime un rapport singulier qui ne peut pas être réduit à un rapport général. Il importe pour la suite de remarquer que cette conception de la causalité peut être appliquée, ça c'est moi qui le dis, à la relation de dépendance causale entre l'acte libre de l'homme et Dieu. Le jugement causal « Dieu a causé tel acte libre » peut être analysé par le conditionnel contrefactuel. Si Dieu n'était pas, et si tout ce qui a eu lieu jusqu'à l'acte libre avait été identique, l'acte libre ne serait pas survenu. Le rapport contrefactuel, précise Kyle à propos de la causalité naturelle, bon, dans cette citation qui est tirée d'un texte en français, c'est X et Y, mais bon, c'est comme A et B, Le rapport contrefactuel est singulier, c'est ça qu'il faut bien comprendre et en quoi il se différencie de David Lewis, est singulier en ce sens qu'il est possible que dans une situation semblable, un événement du genre X ne cause pas d'événement du genre Y. Quelque chose pourrait interférer. Cependant, la possibilité que quelque chose interfère ne change rien au fait que, dans le cas où rien n'a interféré, X a été la cause de Y, et l'on ne porte de jugement causal singulier qu'après coup. L'exemple qu'il donne, c'est « il a plu et le gazon a été mouillé, on aurait pu couvrir le gazon comme à Wimbledon ». Bon, j'ajoute que, dans le cas de la causation par Dieu, ce qui peut interférer, justement, c'est le refus de l'homme. Cette possibilité de perturbation dans les relations causales, ne contredit pas l'existence de régularité qui, selon Kyle, il faudrait le lire en détail pour pouvoir le montrer, régularité qui suffise pour assurer l'unité de l'expérience réclamée par Kant. Donc une unité de l'expérience qui n'est pas assurée par une conception déterministe de la causalité, mais par une conception contrefactuelle singulière. Quelle possibilité alternative existe pour le libre arbitre dans cette conception ? L'originalité et l'intérêt de la pensée de Kyle se manifestent aussi dans sa conception des possibilités alternatives. Affirmer qu'un agent dispose de véritables possibilités alternatives dans des conditions identiques auxquelles appartiennent les raisons d'agir, c'est s'exposer à l'objection suivante. Si la personne dans des conditions identiques, ce qui veut dire sur la base de la même réflexion et avec les mêmes raisons, avait pu décider autrement qu'elle ne l'a fait, cette décision n'aurait-elle pas été incompréhensible ou irrationnelle ? C'est l'objection du hasard, en fait. À cette objection, Kyle répond qu'un pouvoir d'agir autrement, qui ne serait pas capricieux, aux mêmes conditions, est un pouvoir de réfléchir davantage et repose sur un pouvoir de réfléchir davantage. L'alternative n'est pas simplement entre agir et en faisant A ou B, mais agir et continuer de réfléchir aux raisons d'agir. Alors une seconde objection surgit selon laquelle continuer de réfléchir serait à son tour irrationnel, mais Kyle répond à l'objection en montrant que nous avons, en tant qu'adultes sains d'esprit, une connaissance suffisamment grande de la faillibilité de nos raisonnements pour que continuer à réfléchir puisse être, peut-être pas toujours, tout à fait raisonnable. Pour Kyle, donc, si le sujet n'a pas toujours la possibilité d'agir autrement, par exemple, s'il est très vertueux et qu'on lui soumet un dilemme moral, il n'a pas la possibilité de choisir la solution mauvaise, mais il a toujours cette possibilité alternative particulière qui consiste à prolonger la réflexion avant d'agir. Si cette façon de voir est justifiée, comme je le pense, il me faut légèrement corriger ce que j'ai dit dans l'introduction au sujet de l'impossibilité d'agir autrement de la personne qui serait parvenue à une union complète avec Dieu. Tout au moins dans les cas où l'action alternative à l'action bonne envisagée serait mauvaise. Mais bon, pour quelqu'un de très vertueux, devant une telle alternative, il ne va jamais choisir la solution mauvaise, il ne le pourrait même pas. Torturer pour avoir de l'argent, que sais-je, des choses comme ça. Mais cela dit, dans ces cas particuliers, la personne dispose quand même d'une possibilité alternative. Selon Kyle, et je pense que c'est à prendre en compte, celle-ci ne consiste pas à s'abstenir de la seule action bonne possible pour la personne vertueuse, compte tenu de son caractère, par exemple le choix d'une fidélité coûteuse. Elle consiste, cette possibilité alternative, dans la poursuite de sa réflexion. Ou tout au moins, alors ça c'est moi qui l'ajoute, dans cette forme particulière d'activité mentale, pas toujours réflexive il est vrai, qu'est la prière. Par celle-ci, le sujet reconnaît sa faiblesse, les limites de son intelligence, la possibilité qu'il a de se tromper, sa dépendance à l'égard de Dieu, et laisse ouverte la possibilité d'une influence intérieure de la grâce qui le fasse modifier, sinon l'action elle-même, au moins le jugement qu'il porte sur elle et l'esprit dans lequel il l'accomplit. L'action elle-même peut s'en trouver requalifiée, voire modifiée. Sinon, dans son apparence extérieure, celle qu'un neuroscientifique pourrait observer, hein, au moins dans sa signification et son intention. De fait, la personne pleinement unie à Dieu n'est peut-être plus menacée de grave infidélité à Dieu, hein, mais jusqu'à sa mort, elle doit rester sur ses gardes quant à la possibilité de subtils retours sur elle-même ou d'une appropriation orgueilleuse de ses actions, comme si elle en était l'auteur propre, au lieu de reconnaître qu'elles lui viennent de Dieu. Conclusion. Liberté sans déterminisme, mais non sans dépendance causale. Le moment est venu donc de tirer les conclusions de cette réflexion théologique et philosophique. Et comme vous l'avez remarqué, un de ses fondements fut la distinction entre causalité et déterminisme, aussi bien en ce qui concerne l'action causale de Dieu qu'en ce qui concerne la causalité naturelle. Avec Geert Keil, j'ai opté pour une compréhension de la relation causale comme relation contrefactuelle singulière. Dire que Dieu ou un événement a causé une action libre revient à dire qu'en l'absence de Dieu ou de cet événement, l'action libre n'aurait pas été effectuée, étant supposé que le cours antérieur des événements est le même dans tous les cas. Et on renonce dans cette approche à comprendre comment Dieu cause quelque chose. C'est complètement à la limite de l'impiété, d'ailleurs. Tout cela implique un acte libre, et c'est là une conclusion que je juge importante, tout cela implique qu'un acte libre peut être tout à la fois causé par des événements naturels antérieurs, quoique non déterminés par eux, libre au sens où un autre cours des événements aurait été réellement possible, la personne disposant de la possibilité alternative d'agir autrement ou tout au moins de continuer à réfléchir à son action, tout à la fois causé par des événements antérieurs, libre au sens que j'ai dit, et enfin causé par Dieu, sans être déterminé par lui. Cela a pour conséquence que des observations empiriques, qu'elles soient ou non scientifiques, neuroscientifiques, etc., ne permettent ni d'affirmer ni d'infirmer la liberté d'un acte. Elles ne permettent pas davantage d'affirmer ou d'infirmer la possibilité que Dieu ait causé cet acte par grâce. Mais, objection possible, ne faut-il pas considérer du point de vue théologique que certains phénomènes intérieurs faisant l'objet de récits dont la sincérité ne peut pas toujours être mise en cause ne seraient explicables que par une action spéciale de Dieu ou d'un agent surnaturel. Il s'agit par exemple des phénomènes mystiques tels que les visions, les extases spirituelles, ou plus simplement des états de prière ou d'oraison dans lesquels le priant accède à un recueillement très profond. De fait, quand nous lisons de grands auteurs spirituels comme sainte Thérèse d'Avila, nous rencontrons, je crois que saint Ignace dit la même chose aussi, chez eux l'argument selon lequel les phénomènes intérieurs non reproductibles par l'effort personnel sont causés par un agent spirituel, le démon ou Dieu. Si la liberté n'est pas directement engagée dans l'apparition de ces phénomènes, elle est toujours impliquée, remarquons-le, dans la préparation à leur survenue, parfois dans leur accueil, et elle peut grandir la liberté sous leur influence. Donc même si apparemment on ne choisit pas d'avoir une vision, elle a un lien fort avec le libre arbitre, ou un état de prière très recueilli. Alors j'ai montré dans une étude que je ne peux ici qu'évoquer, vous avez les références, qu'il est possible et même indiqué de concevoir, à la lumière des neurosciences, que dans le cas de Thérèse d'Avila, la plupart, sinon la totalité de ses extases et visions, étaient très probablement déclenchées par des crises d'épilepsie du lobe temporal droit, c'est ce qu'on appelle l'épilepsie de Dostoïevski, elle-même due à une cysticercose, c'est-à-dire une parasitose très endémique à l'époque, produisant des kystes dans le cerveau. Mais indépendamment d'une telle hypothèse médicale sur un cas particulier, je pense que nous en savons aujourd'hui suffisamment sur les fonctionnements neurologiques et psychiques pour refuser le principe que j'ai énoncé tout à l'heure comme étant de Thérèse d'Avila, principe selon lequel ce qui ne peut être reproduit par les efforts de la personne est nécessairement causé par un agent spirituel. Pensons tout simplement aux rêves, qui étaient autrefois volontiers attribués à de tels agents, mais dont nous savons aujourd'hui qu'ils sont le produit de notre fonctionnement neuropsychique spontané. Le fait que nous ne comprenions pas intégralement, loin s'en faut, ce fonctionnement neuropsychique spontané n'implique pas qu'il faille avoir recours à un autre type de causalité pour expliquer même des phénomènes spirituels ou même l'expérience d'avoir été mu intérieurement pour une action, et ainsi de suite. De même, les phénomènes tels que les visions ou extases ne peuvent plus être attribués aussi facilement qu'autrefois, tout au moins dans le rythme de leur survenue, dans l'intensité et le type d'expérience concernée, à l'intervention de Dieu ou du démon éventuellement. Mais rien n'exclut, attention, conformément à ce que j'ai dit, que ces phénomènes, tout en obéissant à une causalité naturelle, donc les phénomènes exceptionnels comme les phénomènes plus ordinaires de la vie de foi, ces phénomènes, tout en obéissant à une causalité naturelle, éventuellement pathologique, comme dans le cas de Thérèse d'Avila, soient causés par Dieu. Et que d'une façon certes irreprésentable pour nous, Dieu puisse, dans et par ces événements, éclairer, fortifier, transformer la personne en qui ils interviennent. Cela vaut, comme je l'ai dit, donc pour tous les phénomènes neuropsychiques ordinaires, comme les actions libres, et ainsi de suite. Seule la foi, en fait, permet d'affirmer, et non pas l'observation empirique, ou tout au moins de supposer avec une grande probabilité que Dieu est à l'œuvre dans une personne pour la libérer, quel que soit le caractère ordinaire ou extraordinaire des phénomènes vécus par elle. Symétriquement, aucune observation neuroscientifique ne peut infirmer la réalité d'une telle action. Je termine en disant, c'est un bref paragraphe, que si l'action libératrice de Dieu ne peut faire l'objet d'une évaluation empirique, selon quels critères théologiques et spirituels peut-elle être discernée? Comme je l'ai rappelé au commencement de ces réflexions, il ne peut s'agir que de la conformité au Christ, l'homme libre et libérateur par excellence. De cette conformité, d'un point de vue théologique et spirituel, le signe le plus sûr est la charité, agapé en grec. En particulier, la charité envers celui que nous n'aimons pas spontanément, l'exclu et l'ennemi. À cette lumière, nous apparaissons beaucoup moins libres que nous ne le pensons. Il suffit de mesurer l'amour que nous avons pour les exclus et les ennemis. Et beaucoup plus dépendant de l'action de Dieu pour être libéré que, spontanément, nous ne le désirerions. Seul le regard de foi sur le Christ, reconnu comme suprêmement libre en étant radicalement dépendant de Dieu, peut nous convaincre, et c'est ma dernière phrase, et de notre aliénation, et de notre dépendance à son égard pour l'accomplissement de notre vocation à la liberté.
Voilà, merci Jean-Baptiste, ce deuxième apport très substantiel sur le champ théologique. Nous prenons quelques minutes de pause, prenons une dizaine de minutes de pause, on a pris une minute de retard, c'est pas très grave. On se retrouve ici à 12h05 pour un temps de, pendant une demi-heure de débat, de questions, voilà. Donc 10 minutes de pause et nous reprenons à 12h05.